en coloc. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de la communication de Jean-François Jarich, président de l'Institut et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, communication intitulée « Du musée Guimet au musée des arts asiatiques ». Retrouvons Jean-François Jarich en grande salle des séances.
Je vous remercie, monsieur le secrétaire perpétuel, messieurs les représentants de l'ambassade du Japon, le directeur du centre culturel, chers confrères, mesdames, messieurs, je vais simplement, dans le cadre de ces 150 ans de relations diplomatiques, de vous parler de 133 ans de relations entre un homme exceptionnel, Émile Guimet, et ses descendants qui veillent sur le musée Guimet ou qui ont travaillé au musée Guimet pendant toutes ces années. Le musée Guimet est né de la volonté d'un personnage tout à fait exceptionnel, Émile Guimet, et il est véritablement né de ce voyage qu'Émile Guimet a fait en 1876 avec une lettre de recommandation du ministre de l'Instruction publique de l'époque, c'est-à-dire Jules Ferry. Et j'avais eu l'occasion, l'honneur, de présenter un discours rendant hommage à Émile Guimet lors de notre séance publique solennelle du 24 novembre 2000, intitulée « Émile Guimet, 1836-1918, un novateur et un visionnaire ». J'ai eu cette occasion de rappeler l'œuvre d'Émile Guimet, le voici parti de San Francisco. Il était allé à Philadelphie voir l'exposition universelle. Il est parti de San Francisco, atteint le Japon à Yokohama, et le voici accompagné du peintre Félix Régamet et de ses assistants interprètes qui d'ailleurs aideront par la suite Émile Guimet à mettre en valeur l'action que ce voyage lui a permis d'avoir. Ce voyage a vraiment été pour lui extrêmement important. On voit ce parcours, Yokohama, il est allé à Mikko et aussi à Kyoto. Il n'est pas allé à Nara, mais à Kyoto. Et nous connaissons, ceux qui ont suivi son œuvre, l'importance de ces fameuses conférences bouddhiques en 1876, la conférence de Honganji, celle du Keninji. Le voici installé dans ce grand temple de Kyoto. Et cet homme qui découvre le Japon avec émerveillement, j'avais cité ces phrases lorsqu'il découvre les temples en déclarant que ces temples vous font passer par un crescendo de beauté accumulée et par une savante combinaison des splendeurs de la nature et des chefs-d'œuvre des architectes japonais. Et il est aussi, lui, musicien, auteur, créateur d'un opéra, sensible à la musique religieuse, au shōmyō, et il déclare que dans ses temples, cette musique évoque les grandes harmonies de la nature, le bruit des êtres, un concert d'âmes, une harmonie venue des mondes extra-humains. Mais Émile Guimet n'était pas parti au Japon pour simplement s'émerveiller avec autant d'une telle qualité littéraire et une telle sensibilité de la beauté du Japon. Il avait un but précis, et comme j'aurai l'occasion de rappeler, l'homme, le visionnaire, l'amateur visionnaire a eu son œuvre mise en valeur par un savant visionnaire, Bernard Franck, dont nous reparlerons, et qui a montré que lors de son départ, Émile Guimet était parti avec la traduction d'un répertoire iconographique du XVIIe siècle, le Butsuzo Zui, avec lequel il a, pendant quelques semaines, réuni une collection exceptionnelle de sculptures et de peintures. Et il a, comme l'a bien montré Bernard Franck, su organiser sa collection, non pas selon des critères d'histoire de l'art, mais des critères iconographiques extrêmement importants, puisqu'il a su distinguer six catégories d'êtres qui ont servi par la suite à Bernard Franck pour mettre en place son ouvrage magnifique que nous connaissons tous, le Panthéon bouddhique. Il a su, Émile Guimet, réunir ses sculptures, les Bouddhas, les Bodhisattvas, les rois de science, l'ensemble des divinités, les apparitions circonstancielles, c'est-à-dire les divinités locales intégrées dans le Panthéon bouddhique, et les religieux et les patriarches éminents. Alors là, nous avons une conférence avec le texte de ces conférences où Émile Guimet pose des questions et s'aperçoit que cette multiplicité des dieux est plutôt un chemin qui mène vers un niveau supérieur où on retrouve des facteurs d'unicité. Voici d'ailleurs Émile Guimet, la peinture était aussi de Félix Régamet, le voici, discutant passionnément avec le supérieur de Keninji, un autre prêtre et ses interprètes dont vous avez vu la photographie au début. Émile Guimet, en 1878, à l'exposition universelle, va présenter une partie de ses collections et en particulier un fameux mandala qui se trouve au centre de ce podium. Et ce pavillon, cette exposition des collections japonaises, suscite un très très grand intérêt et Émile Guimet décide de créer un musée, le musée Guimet de Lyon, fondé en 1879, inauguré par Jules Ferry juste avant sa mort, le musée Guimet à Paris, fondé en 1889, inauguré par le président de la République de l'époque, Sadi Carnot. Et dans ce musée, le Japon occupe une place centrale, comme on l'a souvent souligné. Émile Guimet a été vraiment fortement impressionné par le Japon, le bouddhisme japonais, sa rencontre avec la Chine, qui était aussi un but de sa mission, et l'Inde a été beaucoup moins marquante dans ce qui a été son œuvre. Voici donc le musée Guimet avec le fameux mandala dont nous reparlerons dans une présentation de la fin après 1889. Ces photos sont assez difficiles à dater, mais vous voyez dans cette présentation néoclassique qu'Émile Guimet avait fait construire le musée Guimet de Paris, reprenant exactement le modèle du musée de Lyon, ce qui fait que d'ailleurs sur certaines photos nous avons peine à savoir si nous sommes à Paris ou à Lyon. Voici les présentations et vous pouvez deviner le goût des présentations. Nous avons à gauche Shujo Hime, des moines, nous sommes là dans la section des patriarches, derrière des Jizo. C'est une présentation scientifique très impressionnante pour l'époque, ce souci de classification, créer des catégories permettant de comprendre le fonctionnement de ce bouddhisme japonais qui le passionne avec les cultes syncrétiques qui mêlent les esprits shinto à qui une forme bouddhique est donnée. Des cérémonies marquantes à l'époque, une qui a été très suivie en 91, la cérémonie avec des moines de la secte Jodo Shinshu, en présence de Sadi Carnot, Clémenceau, il y avait Degas, tout le ministère était là, des événements qui ont beaucoup marqué l'esprit à l'époque. Nous sommes aussi dans une période où les questions religieuses avaient une grande importance. Et ce musée des religions, créé par Émile Guimet, attire l'attention des hommes politiques, des pamphlétaires aussi, des journalistes qui suivent ces manifestations avec intérêt. Et voici Émile Guimet à la fin de sa vie. Petit à petit, les choses vont changer au musée Guimet. Le voilà avec ses gardiens. Nous sommes là peu de temps avant sa mort, je crois qu'en 1917. Et déjà, le musée Guimet a changé. On commence à dire que ses collections d'iconographie sont intéressantes, mais l'histoire de l'art se développe. Ses représentations bouddhiques ne représentent pas vraiment la totalité, ce qui est vrai d'ailleurs, des arts du Japon. Et dans le même temps, du temps d'Émile Guimet, se développe une autre approche, celle qui conduit par le japonisme, par l'intérêt pour les œuvres non religieuse venue du Japon, et la création du département extrême-oriental du musée du Louvre. C'est, vous voyez ici, des estampes de Kusai que vous pouvez voir à Paris actuellement, et Goncourt qui écrit son ouvrage sur Hokusai, qui va jouer un rôle important en 1896. Vous avez les œuvres de Gonce, et c'est l'enthousiasme pour un autre Japon, celui de Utamaro, Hokusai et Hiroshige. En même temps, se produit un autre mouvement, je parle ici surtout d'histoire de l'art, un autre mouvement qui critique à la fois Émile Guimet et l'enthousiasme de Goncourt, Burti et autres, avec de vrais savants au musée du Louvre, Raymond Coquelin, Gaston Mijon, inspirés par les travaux de Fenollosa, c'est que si Hokusai est un grand artiste, il y a eu aussi les peintres Kano, les peintres Corinne, Sotatsu, la découverte de la grande tradition lettrée, et qui tend à montrer que aussi les estampes, les peintres de la période de ce qu'on appelle l'ukiyo-e représentent un courant un peu populaire. Quant aux sculptures de la collection d'Émile Guimet, on s'aperçoit avec la découverte de l'art de la période Heian, Kamakura, Muromachi, que ces collections paraissent tardives. Seul Serge Elisséeff, qui a été membre de notre académie, tout jeune, cherche à défendre cette collection et à l'importance de ses qualités iconographiques, mais il part aux États-Unis et il faudra attendre l'arrivée de Bernard Franck pour que l'on s'intéresse de nouveau à cette collection. Je dois dire que dans l'ensemble, même au musée Guimet, à partir des années 20, l'intérêt pour la Chine, les grandes expéditions en Afghanistan, les travaux à Angkor, font que les études japonaises restent très vivantes, mais dans le domaine de la littérature, de l'histoire, mais dans le domaine de l'histoire de l'art, le dynamisme des chercheurs dans le domaine chinois, l'art du Cambodge, et font que petit à petit, les collections japonaises du musée Guimet ne sont plus au cœur des présentations, et les collections d'Émile Guimet prennent le chemin des réserves. Certaines sont stockées dans un bâtiment qu'on appelle l'annexe et assez mal rangées. Et c'est Bernard Franck qui découvre véritablement Émile Guimet a fait une œuvre exceptionnelle et, on peut dire, le mot est galvaudé aujourd'hui, mais une œuvre géniale. Et c'est donc ce savant visionnaire qui va remettre en valeur l'œuvre d'un amateur éclairé, d'un amateur lui aussi visionnaire. Bernard Franck réussit à convaincre les autorités du musée Guimet à faire une première exposition d'iconographie à l'annexe, mais c'est une exposition sur un étage qui ne se développe pas. Et au moment où j'ai eu l'honneur de devenir directeur du musée Guimet, Bernard Franck a attiré notre attention sur cette collection exceptionnelle. Et étant, comme vous le savez, chercheur au CNRS, la démarche d'Émile Guimet m'a paru scientifiquement tout à fait remarquable et expliquée par Bernard Franck, elle devenait en même temps une aventure de l'esprit passionnante. Vous voyez ici Bernard Franck avec le révérend Sunahara, c'est une au Toji, car évidemment le Toji, nous aurons l'occasion de revoir le fameux mandala que Émile Guimet avait fait réaliser sous l'indication du supérieur du Toji, en 1876, par le grand artiste de l'époque, un grand sculpteur, par Yamamoto Mosuke, eh bien, ce mandala que Bernard Franck a tant étudié avait été réalisé sous les instructions du Toji, selon un modèle de ce temple. Et le révérend Sunahara est devenu un proche de Bernard Franck. Et lorsque Bernard Franck nous a quittés le 15 octobre 1996, peu de temps après, le révérend Sunahara, les moines du Toji, avec ses cendres qui sont maintenant en partie conservées au temple Toji, lui ont décerné ce titre, un grand titre que je donne en français naturellement, très vénérable, universel, Burunaru Furanku. C'est un titre posthume proche de celui du grand moine Kobo Daishi, le fondateur de la secte Shingon, dont le Toji est un des grands temples. Alors voici le fameux mandala, réplique si l'on veut, mais aussi création de, qui est une œuvre très importante pour de 1876, mais d'une grande qualité, que Bernard Franck a su mettre en valeur et expliquer et développer avec Dainichi Nyorai au centre. Voici dans le Panthéon bouddhique le premier étage où, contrairement à ce que l'on avait pu penser d'ailleurs, beaucoup de ces pièces qui sont là datent du début de la période Edo et certaines sont Kamakura et d'autres même Heian, des œuvres de grande valeur qui, grâce à Bernard Franck, dans sa présentation, sont aujourd'hui visités par beaucoup de spécialistes et par un public ému. Nous avons dans le jardin, grâce à un groupe de mécènes de Kyoto, dirigé par le révérend Shobin Yamada, le supérieur du Shinjuan du Daitokuji, un des grands temples où s'est pratiquée la cérémonie du thé depuis longtemps et qui vient malheureusement de mourir, nous avons eu la chance de voir cette maison de thé réalisée par, je crois, un des deux ou trois plus grands architectes des pavillons de thé qui s'appelle M. Nakamura Masao. Et donc voilà ce Panthéon bouddhique qui est un lieu où nous gardons précieusement la mémoire de Bernard Franck. Et malheureusement, Bernard Franck se tenait à l'arrière, je n'ai pas retrouvé sa photo, donc je regrette d'être mettre en valeur. Mais vous voyez la cérémonie d'inauguration avec l'ouverture des yeux de ces sculptures le 4 avril 91, qui ont été célébrées par les moines du Toji. Nous avons le révérend Inoue et le révérend Sunahara. On voit un bout de son crâne derrière le révérend Inoue. Et ce révérend, le supérieur Sunahara, qui est revenu pour une autre cérémonie, nous sommes un peu dans la tradition de ces cérémonies que vous avez vues avec les moines du Jodo Shinshu. Et nous avons, le 2 septembre 2002, eu cette cérémonie très émouvante de la 7e année après la disparition de Bernard Franck et qui a été célébrée par ce même révérend Sunahara, montrant la force et la profondeur de certains liens et leur dimension spirituelle. Dans ces fameuses pièces qui étaient soi-disant tardives et dont on se moquait, dont Bernard Franck nous disait sans arrêt, mais il faut les regarder, elles sont très belles, se trouve cette fameuse sculpture qui est une œuvre du sculpteur Kosho, qui est datée de 1232. Et vous voyez Bernard Franck qui se trouve dans le Horyuji, dans le Kondo du Horyuji, avec le révérend Takata, qui était à l'époque le supérieur de ce temple. Et vous voyez un Amida. Cet Amida est une œuvre de Kosho qui était entourée de deux assistants, c'est-à-dire ce Seishi et de l'autre côté un Avalokiteshvara. Et en fait, cette sculpture vient de cette triade. Donc, à la suite de cette visite, la triade a été reconstituée et une copie parfaite a été faite du Seishi qui est maintenant de nouveau dans le condo du Horyuji. Donc ce sont d'émouvantes rencontres. Et entre-temps, le musée Guimet, je ne vous montrerai pas des photos du musée Guimet parce qu'il est à 10 minutes d'ici et que vous le connaissez tous très bien. Je signalerai simplement que le musée Guimet a reçu à partir de 1945 les collections japonaises du musée du Louvre ainsi que le reste des collections asiatiques de l'Inde jusqu'au Japon. Mais l'espace n'était pas très grand, il y a eu en plus des travaux et la section japonaise faisait à peine 400 mètres carrés et n'était pas vraiment dans un très très bon état. Nous avons pu, de 1997 à 2001, faire une complète rénovation du musée pour laquelle nous avons obtenu pour les salles japonaises le soutien d'une collecte des entreprises japonaises qui a rapporté plusieurs millions, qui nous a beaucoup aidés, et le soutien du professeur Hirayama qui très généreusement nous a aussi soutenus financièrement. Et nous avons aujourd'hui une section japonaise bien enrichie qui fait près de 850 mètres carrés, qui a donc doublé de surface. Et vous voyez quelques pièces au premier plan et au deuxième plan des pièces dont nous avons fait l'acquisition au cours de ces dernières années. Donc l'art du Japon est revenu au premier plan. En même temps, le musée Guimet a organisé au Grand Palais la magnifique exposition des trésors du Kofokuji, où de très grands chefs-d'œuvre sont revenus à Paris. Et dans le même temps, pour rester fidèle à la tradition de l'ukiyo-e, une très belle exposition il y a 2 ans au Grand Palais, organisée par notre conservatrice Madame Bayou, appelée « Images du monde flottant ». Et je tiens à souligner notre reconnaissance, puisque après cette séance, nous aurons une réunion, un comité, pour décerner le prix Hirayama, puisque M. Hirayama, correspondant de notre académie, a créé un prix annuel substantiel pour aider les études asiatiques. Nous avons été fidèles à la tradition de nos ancêtres, à guillemets, c'est-à-dire la sculpture bouddhique, remise en valeur au Panthéon bouddhique, remise en valeur dans les salles, mais aussi cet autre aspect qu'on avait critiqué la France pour avoir négligé un petit peu la grande peinture, celle des grands artistes de l'école Kano, Léo Gattacorine et autres. Et nous avons pu faire de nombreuses acquisitions, dont cette magnifique paire de paravents de Gattacorine, qui date autour de je crois, 1710. Nous avons acheté deux autres Gattacorine, trois Maruyama Okyo, de nombreux autres peintres de ces écoles qui nous permettent aujourd'hui de présenter l'art du Japon un peu comme le souhaitaient les différents groupes qui, au fond, travaillaient chacun dans des directions séparées à la fin du XIXe siècle. Et nous avons été aussi, je terminerai par ces éléments qui sont plus actuels, nous avons aussi été récompensés d'une certaine façon lorsque nous avons organisé la grande exposition du musée Ota. C'était l'anniversaire du musée Ota en 2006. Le musée Ota avait envoyé ses chefs-d'œuvre, dont un tigre que vous voyez à gauche. Et ce tigre est considéré comme une des dernières œuvres de Kusai, qui est mort en 48, c'est ça, et qui avait près de 90 ans, dans sa 90e année. Et M. Nagata disait tout le temps, ce tigre était associé à un dragon, si on pouvait un jour retrouver ce dragon. 4 ans auparavant, en 2001, un pharmacien, qui était à l'époque malheureusement déjà très malade, M. Norbert Lagan, nous a donné une magnifique collection d'art japonais qui lui venait des marchands, par l'intermédiaire de divers marchands du début du XXe siècle. Et à l'occasion de cette exposition, nous avons déroulé un de ses dons, c'est-à-dire le dragon, qui est, comme vous le voyez, le pendant du tigre. Le professeur Nagata a failli, je dois dire, je suis désolé, faire un malaise, tant il était, je veux dire, ému, mais aux larmes. Et l'année suivante, au musée Ota, nous avons présenté le tigre et le dragon au Japon, et nous avons eu, dans cette exposition au Japon, plus de 200 000 visiteurs. Et aujourd'hui, depuis le 21 mai, nous rendons hommage à Hokusai dans une grande exposition qui est un des moments forts de ce 150e anniversaire des relations diplomatiques avec le Japon. Voici le musée Guimet aux couleurs de Hokusai et le tigre et le dragon qui sont là et qui vous attendent. Également, je terminerai par la manifestation qui va être celle du mois d'octobre. Du 15 octobre au 8 décembre 2008, nous allons organiser une grande exposition qui s'appelle Kompira, sanctuaire de la mer, trésor de la peinture japonaise. Le sanctuaire de Kompira se trouve près à Koto-Hiragu, dans l'île de Shikoku. C'est depuis la période Heian, un sanctuaire très connu et qui est surtout devenu extrêmement populaire et célèbre au XVIIe siècle, d'où la richesse des œuvres qui s'y trouvent de cette époque. Et c'est le sanctuaire protecteur de la mer et qui reçoit donc beaucoup de dons des compagnies de navigation et des marins. Et voici, par un de ces hasards, avec le Japon, il existe toujours des liens un peu mystérieux. Quand Émile Guimet était allé au Japon, il avait acheté, sans trop le savoir, cette sculpture qui en fait représente Kompira Daigongen, c'est-à-dire une grande divinité de la mer intérieure, protectrice des navires. Et c'est à l'époque du syncrétisme où les formes Shinto, puisque le temple est un temple Shinto, un sanctuaire Shinto, les kami, les esprits, ont pris des formes anthropomorphiques et se sont intégrés dans le panthéon bouddhique. La réforme Meiji a mis un terme à ce syncrétisme et quand le supérieur et les membres de Kompira sont venus à Paris, ils ont été absolument éblouis de voir cette représentation qu'on ne connaît plus au Japon et qui a été préservée grâce à Émile Guimet. Et donc, nous avons pris la décision, avec le généreux soutien de nombreux mécènes japonais, de présenter, à partir du 15 octobre, les parois du pavillon du supérieur au XVIIe siècle, qui avait ce magnifique pavillon décoré de ces peintures splendides, ces peintures coulissantes, ces fusuma, les portes coulissantes, du grand artiste Maruyama Okyo, grand artiste du XVIIIe siècle, qui vont donc venir à Paris, et ainsi qu'un pavillon qui sera démonté, pavillon de Jakushu, avec ces superbes peintures et cette ouverture, ce paysage, vous avez vu dans la première photo, avec ces volcans qui rappellent le Fuji, qui sont ce qu'on appelle les petits Fuji. Et donc, ces œuvres seront présentées à Paris. C'est un événement tout à fait exceptionnel. Nous voici dans la préparation de l'exposition à Kompira. et d'autres œuvres et d'autres chefs-d'œuvre viendront, comme cette magnifique paire de paravents, sans doute, elle est attribuée à Kano Eitoku, un grand artiste du XVIe siècle. Et voici la maquette de cette future exposition, à guillemets, où vous pourrez voir ces grands trésors qui marqueront, je crois, c'est un événement. Toutes ces pièces sont des biens culturels importants qui, normalement, ne voyagent pas. Et c'est une preuve de confiance exceptionnelle que les responsables du temple de Kompira, mais surtout les responsables japonais, ceux du Bunkatsho, des Beaux-Arts, c'est un geste extrêmement important. Et ainsi se termine ce petit tour d'horizon qui vous montre que le musée Guimet, avec l'aide de personnalités exceptionnelles, nous avons évoqué Serge Elisséeff qui a été dans membre de notre académie, et Bernard Franck qui reste membre de notre académie, qui reste un modèle et dont certains disciples se trouvent à côté de moi. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la communication de Jean-François Jarige, président de l'Institut et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, communication intitulée « Du musée Guimet au musée des arts asiatiques ». C'était le 23 mai 2008 à l'Académie des inscriptions et belles-lettres dans le cadre de la journée d'études organisée à l'occasion du 150e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Japon et la France.